Rati. 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 Rati.
Rature, comme un trait que l'on tire sur un ou plusieurs mots pour les annuler ou remplacer, dit le Larousse.
Rature, le signe du ratage, parce que c'est un passage obligé et qu'il est temps de ne plus cacher les coutures.
Rature, une émission de décryptage artistique où comment on fait, défait, refait les choses.
Ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail again, fail better.
Déjà essayé.
Déjà raté.
Peu importe.
Essaie encore.
Rate encore.
Rate mieux.
Pas si bête, Beckett.
Bonjour Rémi.
Bonjour Aurore.
Alors, ce rature a pour thématique Terre, avec un petit S entre parenthèses, parce qu'il y a la Terre, la planète Terre, et puis qui est elle-même faite de terre, de matière. Alors en voilà une thématique bien inspirante. On a dû faire des choix drastiques pour composer notre petite rhapsodie habituelle. Alors mon Rémi, nous, on a un point commun. Tu es, oui, on en a plusieurs, mais on a suivi. Tu es, et j'ai été, professeur de l'enseignement agricole. Alors ça veut dire quoi, professeur de l'enseignement agricole ? Eh bien, pour moi, tout de suite, ce qui me vient, le premier truc, c'est la formation à l'ENFA. Parce que quand on a le concours, je ne sais pas d'ailleurs si c'est encore comme ça maintenant. Mais...
Ça s'appelle l'ENSFEA maintenant.
Ah, d'accord.
C'est toujours à Toulouse.
Eh bien, à l'époque où j'ai eu le concours, moi, voilà, il n'y avait qu'un lieu de formation dans toute la France, contrairement aux IUFM à l'époque dans l'éducation nationale. Et donc, tous les enseignants qui avaient leur concours se retrouvaient à côté de Toulouse, c'est comment ça s'appelle, Castanet au Lozon, je crois.
Ouais, exactement.
Et donc, pour être formé avec des stages là d'où ils venaient généralement. Et donc, pour moi, ça signifie des rencontres incroyables avec des gens de partout, d'Alsace, de l'arrière-pays niçois, du Nord, des profs d'anglais et de toutes les disciplines qui avaient eu les concours. Et puis après, la deuxième phase... Pour moi, ça symbolise une titularisation en Ardèche, c'est-à-dire presque à l'extrême opposé de ma région d'origine. Et puis découvrir ce que c'est que vivre au cœur de la nature, voir les couleurs des petites montagnes changer au fil des saisons, avoir des élèves qui veulent faire du vin, du fromage de chèvre, découvrir des exploitations, les champs d'oliviers dans l'Ardèche méridionale, tous les dossiers de fin d'année de mes élèves sur la chasse et les sangliers, et la bataille entre des filières d'agriculture et des filières de protection d'environnement, à l'image des populations ancrées qui s'opposent toujours un peu aux néo-ruraux. Et toi, tu es dans l'enseignement agricole, professeur d'éducation socioculturelle, Rémi.
Tout à fait, mais pour moi, travailler dans l'enseignement agricole m'a fait prendre un virage qui n'allait pas de soi. Enfin, je m'explique, je suis plutôt un fils du béton ou de la vieille pierre de Bordeaux. La nature, la terre, ça ne faisait pas partie de mon quotidien. Mes présupposés sur le monde agricole ont explosé en vol en quelques années. J'ai vendangé, compté des tichodromes échelettes, et oui, observé des brames de cerf, rentré des vaches dans les stabulations, marché des centaines de kilomètres dans des paysages remarquables, diagnostiqué des dynamiques de territoire, roulé des milliers de kilomètres dans des bus pour comprendre et écouter les pratiques agricoles. Cela m'a rendu plutôt humble sur ce que je suis et ce que je pensais à l'époque. Cela m'a convaincu que nous vivons une période où les paysannes et les paysans étaient sacrifiés sur l'autel de l'agro-industrie. Les souffrances marquent les corps et les esprits de nos élèves. Ils arrivent avec des récits de suicides, de maladies professionnelles, d'accidents de tracteurs. Ils se replient sur leur identité, sur leur terre, leur fierté, car ils savent qu'on les regarde comme des paysous, des bouseux. Ils gardent une certaine fierté à nourrir le monde quand même. Cette fierté, eh bien, elle est manipulée par les tenants de l'agro-industrie. Ils sont des victimes et des acteurs agissants, en fait. C'est le paradoxe de ceux qui retournent la terre. Mais en tout cas, j'en garde un regard affectueux sur ce qu'ils sont.
Eh oui, je te comprends.
Alors, puisqu'on a parlé de la terre, eh bien moi, dernièrement, là, j'ai lu le livre « Première secousse, les soulèvements de la terre ». Et durant cette émission, on va en écouter quelques extraits. C'est parti.
Jadis, il y eut un géant, Anté, fils de l'eau et de la terre, fruit de l'amour de Gaïa, matrice de toutes choses, celle qui accouche du ciel et du temps, et de Poséidon, dieu des mers, des sources et des océans, celui qui ébranle le sol. Anté règne sur les terres berbères et le royaume de Libye. Il est détenteur d'une force tellurique, don de sa mère. Un jour, Hercule croise son chemin. Une lutte s'engage. Hercule plaque le géant au sol, mais dès qu'Anté touche terre, sa force décuple et il se déprend de son adversaire. Alors, pour le vaincre, Hercule l'arrache au sol, le tient à bout de bras dans les airs et l'étrangle jusqu'à ce que mort s'en suive.
Quando vem tem cheiro de gado e planta, manhã.
Ce que nous raconte ce mythe, c'est l'histoire d'un violent arrachement à la terre, un arrachement jusqu'à l'étouffement. Notre époque est semblable à l'agonie d'Anté. Dans un Occident grisé par sa puissance herculéenne, nous sommes captifs d'une existence hors sol, d'un monde où la terre, l'eau et le ciel sont devenus marchandises. Pour survivre à l'étouffement annoncé, il est grand temps de s'ancrer au sol pour mener une lutte terre à terre. Telle fut l'intuition qui a conduit à l'émergence des soulèvements de la terre.
Rature, c'est de la littérature et de la musique. Alors pour évoquer la terre en musique, évidemment, on aurait pu parler de folk, de country, de tellement de choses. Mais moi, j'en ai profité pour rendre hommage à un chanteur que j'adore. Jean-Louis Murat ne s'appelait pas Jean-Louis Murat pour de vrai. Il avait pris ce nom de famille parce que c'était une partie du nom du village de ses grands-parents, Murat-le-Caire, en Auvergne, pas loin de la Bourboule. Une fois, j'y suis passée en voiture, sur la route, en diagonale de l'Ardèche jusqu'en Bretagne, de la terre natale de mes enfants à la mienne. Et ça m'a émue. Parce que Jean-Louis Murat est important pour moi, pour mille raisons, mais aussi pour son rapport au monde, à la terre. En 1989, Christian Fevret va rencontrer Jean-Louis Murat chez lui pour les Inrecuptibles. Et là, Murat lui dit « Je suis d'origine auvergnate. Depuis des siècles, ma famille est là-bas. Je me sens attachée à la terre. Je me sens bien dans les paysages, le pays me plaît. J'étais au contact des gens du 19e siècle, avec une vie du 19e siècle. On ne parlait pas beaucoup français, il n'y avait pas d'eau courante, j'étais entourée d'animaux, c'était le travail de la terre. J'évite de dire ce qui se passait car les gens ne me croiraient pas. Je dormais à côté des bêtes, dont j'étais séparée par une cloison très mince. Ça tenait plus chaud l'hiver. Tout ça m'a nourrie. 3-4 phrases dans la journée, c'était largement suffisant. Mon grand-père parlait plus aux vaches, à ses chiens et à tous ses animaux qu'à nous. J'étais tout pour lui. Il était compréhensif et dur avec moi. Il essayait de me communiquer tout ce qu'il savait. On vivait donc au rythme des saisons, avec la terre et les animaux. C'est un poète terre à terre. Il est mort il y a un an. Et ce triste jour, le journal Le Monde a titré « La mort brutale de Jean-Louis Murat ». Paysan de la chanson. Et oui, et mine de rien, c'est toujours là un peu dans ses chansons, la terre, l'herbe et la bruyère. Beaucoup, beaucoup de bruyère dans les textes de Murat. Mais j'ai pas le temps là de vous faire la totale sur Murat et la terre. On peut quand même écouter un petit morceau de Vendre les prés.
Sans plus d'éducation, qu'elle travaille de nuit, fout Tu dans un dancing, de l'eau jusqu'aux chevilles, tout nous tient désolé. Il faut vendre la terre, il faut vendre les prêts.
Ou encore un autre extrait de Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est enclos, on pense, ça y est, je l'ai. Puis tout se couvre de bourgeons, la tendresse de la nuit ferait notre architecture. Suis-je seul et solitaire, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire ? Si ma terre est nostalgique et si le ciel est boueux, que vaut l'éclat d'un regard ? Qu'est-ce que tomber amoureux nu ? Nu depuis la nuit des temps, j'attends une histoire d'amour. Ok, je suis un ignorant, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire ?
Et puis, en entier, pour se faire plaisir, le joyeux, mon sans souci.
Les enfants forment une ronde, les monos sont jolis. Allez, suez belle tête blonde au terme de chaussis. Allez soigner à l'arsenic vos souffles affaiblis. L'air est si doux dans la bruyère, ou mon sans souci. Dieu les enfants aiment la sieste d'eau tout étourdie. Les filles de Cadet Roussel pendant ce répit, venez pour une heure à peine voir les gars du pays. Venez chanter dans la bruyère, au mont sans souci. J'en pinçais pour une infirmière, une brune plutôt jolie. Je suivais comme Davy Croquette son large parapluie. Au Cinévox, elle m'emmenait voir un guitare Johnny. Je n'avais qu'une idée en tête, le mont sans souci. J'aimais déjà dire je t'aime, je lui dis. Je savais que dans une semaine, elle serait loin d'ici. Tous ces amours de courte haleine embellissaient nos vies. D'un éclat mauve de bruyère, au mont sans souci. Les baisers, le doux manège, viens donc que je te suis. Sauras-tu tenir ta promesse et m'aimer cette nuit? Quand s'entrouvraient la lumière, les portes du paradis, j'aurais passé ma vie entière, au mont sans souci. Herbe têtue, rouge calèche, toboggan rentré. Le temps est long qui nous ramène les filles avec l'été. Quand l'éclat mauve délétère n'éclaire plus ma vie, je vais dormir dans la bruyère, au mont sans souci.
Mais que c'est beau, mais que c'est très beau. Eh bien, dis-toi que moi, de mon côté, en parlant de la Terre, mon ami Charles-Henri Lavielle, des éditions Anarcarsis, m'a mis dans les mains le dernier livre de Nicolas Rouillet, L'or et l'arsenic, et je suis tombé dedans, mais vraiment avec plaisir.
Ah oui, t'étais emballé.
J'étais très, très emballé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris son numéro de téléphone. Et du coup, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais nous, on a une thématique sur la Terre. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? Et après, j'ai appris qu'il venait à Bordeaux le 6 juin pour recevoir le prix du livre du réel organisé par la librairie du Mola, de Mola. Et donc, si vous êtes intéressé, allez le voir. C'est le 6 juin à 18h à l'Espace Ozone. Et surtout, lisez son livre. Voilà. Allez, on va partir pour l'écouter.
Allô,
Nicolas ?
Ouais, salut Rémi.
Ça va? Ça nous fait très plaisir pour Rature de t'inviter parce que ça fait longtemps qu'on te suit. On avait commencé par ce livre, Le Samovar, qui peut-être annonçait la préfiguration de la ZAD. Et puis, tu nous reviens en 2018 avec un Timica chez Anacarsis, donc un western papou. On est assez émerveillé aussi par ce livre que tu as écrit, T'as pas trouvé pire comme boulot, où tu parles de ton expérience en travaillant avec les personnes âgées. Et enfin, tu nous sors un livre, L'or et l'arsenic, une histoire orale d'une vallée minière. La première question qui me vient, avant de parler de ce livre, c'est qu'on sent bien que la Terre, elle a un intérêt. Et tu vois plein de choses. En tout cas, dans trois de tes livres, on sent bien que c'est le rapport qu'on a avec la Terre, cette relation-là, la prédation. C'est quoi, toi, ton rapport avec la Terre ?
Mon rapport avec la Terre, je dirais qu'il est assez lointain, parce que moi, je suis un urbain. Je me suis intéressé d'abord aux questions de prédation, notamment en Papouasie, où la Terre est accaparée pour ses ressources minières, entre autres. J'ai essayé de montrer toutes les conséquences sur les populations autochtones et sur l'environnement. Après, le fil, je dirais, c'est peut-être la mine d'or qui m'a amené cette fois dans l'Aude, parce qu'en Papouasie, il s'agissait de la plus grande mine d'or du monde, et j'ai découvert quelques années plus tard qu'il y avait aussi une mine d'or dans l'Aude. Donc c'est sans doute ce lien thématique. Et après, moi, c'est aussi les questions d'autonomie qui m'intéressent. Donc, dès qu'on parle d'autonomie, on parle de la Terre.
Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parles des captations, mais aussi de ce rapport à la Terre qui est que c'est aussi un être vivant. On parle de terre fertile et de terre stérile. Et est-ce que c'est là-dedans que la Terre t'intéresse, en fait, dans sa capacité à faire du vivant?
Il y a cette capacité qui permet l'autonomie, et puis il y a le revers de l'exploitation qui crée des zones sacrifiées où on ne peut plus vivre, où la Terre est, pour une durée plus ou moins longue, rendue infertile, impropre, plus ou moins impropre à la vie. Donc c'est tout ce rapport ambivalent que peuvent avoir nos sociétés à la Terre, c'est-à-dire un besoin assez évident de s'ancrer, d'y faire pousser de quoi vivre, et en même temps par nos modes de vie, créer des zones où la terre, la terre n'est plus propre à porter la vie.
Et du coup, c'est assez intéressant cette question de l'autonomie, c'est-à-dire en fait, c'est une relation peut-être apaisée ou apaisante de ce qu'on construit avec la terre. Toi, tu l'as défini comment, toi, ton autonomie ?
L'autonomie, je pense qu'elle peut prendre plein de formes différentes. En tout cas, ce qui m'est apparu, moi j'ai plutôt parlé de ce que j'ai vu, c'est qu'elle elle tourne toujours autour du collectif, que l'autonomie seule n'a pas beaucoup de sens, et que l'autonomie en ville, c'est une quête, mais elle est quand même liée à un moment ou à un autre à des connexions à la terre plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Voilà, on a des exemples. Tu parlais de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Après, il y a des collectifs qui sont sur les mêmes logiques. Par exemple, à Dijon, la zone des Lentillères. Donc là, c'est en milieu urbain, mais avec quand même un accès à la terre. Donc partout où moi j'ai vu des recherches d'autonomie, il y a un moment ou un autre un lien à la terre. Donc des collectifs qui sont comme un maillage, c'est-à-dire des liens entre la ville et puis des territoires un peu plus lointains, un peu plus préservés.
Et est-ce que dans tous tes voyages, cette notion-là, du vivant, de la terre vivante, est-ce qu'elle elle préfigure des nouvelles formes politiques ? Est-ce que c'est pas ça qui vient au centre maintenant des débats ? C'est de qu'est-ce qu'on fait de notre terre ?
Je pense que dernièrement, on parle beaucoup du vivant et plus uniquement de l'humain. Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est pas encore, c'est juste esquissé pour l'instant dans ce que j'ai fait, parce que je parle d'histoire humaine tellement forte, tellement écrasante, que ça laisse pas beaucoup de place au reste du vivant. Mais en tout cas, je dirais que c'est dans cette direction que je me dirige. Parler aussi du lien au reste du vivant, et qu'on passe complètement sous silence généralement. Mais là, il y a tout un courant de pensée qui, je pense à Baptiste Morisot notamment, mais qui nous ramène à une réalité, c'est-à-dire qu'on n'est pas extrait du vivant, on est en plein dedans, on en fait partie, on en est issu. Donc oui, moi, c'est en tout cas des thématiques qui m'intéressent beaucoup.
Merci Nicolas. Rouillet, donc tu as écrit « L'or et l'arsenic », histoire orale d'une vallée minière. C'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai adoré parce que de suite, il m'a fait replonger dans les livres de Studd Terkel sur la mémoire orale des États-Unis. Et si j'ai adoré, parce que je pense que cette forme littéraire, elle fait aussi référence à ce que nous, on fait à la radio. C'est quelque part un petit peu de la radio. Et quand on lit ton livre, on l'écoute aussi.
Heart of the country.
On a trop envie de chanter. Ce cher Paul McCartney qui, dans Heart of the Country, parle du moment où il part habiter à la campagne. Ça fait partie des chansons de l'album Ram, dans la campagne écossaise. Hein. Il y a une autre chanson aussi qui s'appelle Mull of Kintyre, où il parle de ça. Alors, ceci pour dire, pour continuer sur notre thématique de la Terre, on est toujours sur Rature, c'est dimanche soir.
Sur la clé des ondes.
Sur la clé des ondes, 90.10. Et alors là, je vais introduire juste une petite déambulation que j'ai faite dans ma bibliothèque autour de cette thématique. Terre, je me disais en regardant ma bibliothèque. En fait, j'ai essayé de trouver des textes qui me faisaient penser à la Terre ou dans lequel je me souvenais d'un passage sur la Terre. Ou c'est ce que je fais souvent quand j'ai une thématique. Là, en vrai, j'aurais pu prendre, je crois, la moitié des bouquins de ma bibliothèque. Donc, j'ai un peu glané, pas vraiment au hasard, mais c'est ce qui est tombé ce jour-là. Alors d'abord, parce que sûrement, terre, je pense aussi à la terre, à ma terre natale. J'ai pris un poème de Guillevic. Toute la terre, en parlant, viendrait à lui par le noisetier. Toute la terre, en tremblant, viendrait à lui par ses yeux, à elle. Alors il pourra boire après, et rire avec les gens du pays, peut-être sourire au milieu des gens du pays, comme les corps trop blancs ne font plus, comme font parfois les buissons, lorsque la lune a vaincu le vent, et qu'ils sont entre eux, tolérant le lièvre et les rêves de quelques pierres. C'est marrant parce que dans les textes que j'ai choisis, finalement la Terre n'est jamais seule. C'est comme si cet élément qui était la Terre fonctionnait forcément avec les autres, avec le vent, avec la mer aussi. Il y a un autre texte de Guillevic que je vais vous lire qui là est dans le carnet qui s'appelle Carnac. Alors qu'avant, le poème que j'ai lu est dans Sphère. Sous nos pieds, la terre, comme si de rien n'était. Toi, l'indifférence ne t'est pas donnée. Je suis des tiens, va, tout bien pesé, tout bien aimé, tout bien maudit. Je suis des tiens. Il s'est passé quelque chose à Carnac, il y a longtemps. Quelque chose qui compte. Et tu dis, lumière, qu'il y a lieu d'en être fier. Maison blanche, vous de Carnac, à tendre votre chaud contre qui veut dormir, vous la fin de la terre et la fin de la mer, où le soleil enfin ne peut plus s'étaler, mais cogne, mère, comme tu fais. Autant que les maisons, les gens s'abandonnaient, il y avait parfois tant de vent que le temps n'était pas pesant, mais le vent camouflait le temps. La littérature semble nous dire que la terre n'existe pas seule. Donc le vent est aussi présent dans un texte de Pierre Michon qui s'appelle « Vie minuscule ». Pierre Michon, s'il y a un auteur littéraire rural souvent cité, c'est lui, parce qu'il est creusois et c'est presque une revendication de parler de cette terre et des gens qui l'habitent. Parce que la terre, ce sont des hommes et des femmes aussi. Ils furent noyés, comme des chats, innocents, balourds et consubstantiels, tels deux de la même portée. Ensemble, ils allèrent en terre, sous un ciel en fuite, dans la bière d'un seul, au mois de janvier 1902. Le vent passe sur Saint-Gousseau. Le monde, certes, fait violence. Mais quelle violence n'a-t-il pas subi ? Les fougères miséricordieuses cachent la terre malade. Y poussent du mauvais blé, des histoires niaises, des familles fêlées. Du vent, le soleil surgit comme un géant, comme un fou. Puis il s'éteint, comme s'est éteinte la famille des peluchers. On dit ainsi quand le nom cesse de s'appareiller à des vivants. Seul le proffère encore des bouches sans langue, qui ment avec obstination dans le vent. Fiefier glapit dans les bourrasques, le père tonne, dans une saute se repent, se rachète quand le vent tourne, le fils à jamais fuit vers l'ouest, la mer jeun aura des bruyères, l'automne dans une odeur de larmes. Et donc voilà que petit à petit, dans ma pioche hasardeuse dans la bibliothèque, je trace une route dans les campagnes françaises, de la Bretagne à la Creuse. Et puis, j'ai pensé à un extrait de « Que ma joie demeure » de Jean Giono. Et cette fois, on est plutôt sur un plateau de Haute-Provence au début du XXe siècle. Et c'est un fermier qui vit son sort comme de manière très lourde et qui va rencontrer la légèreté, la joie au travers d'un autre personnage, un acrobate itinérant. Mais le passage qu'on va écouter, il est surtout intéressant parce que justement il remet le lien entre une espèce de vision comme ça, de flash d'un homme avec la terre. Déjà, il y avait quelque chose de changé. Le froussement plus rapide de la terre fendue par le coutre et le fer du cheval qui tinta contre la chaîne de ridelle. Au bout du sillon, il se dit « Maintenant, regarde !» Le champ montait jusque vers la forêt, mais là-haut, il était arrêté net contre la nuit. Juste sur la ligne, on voyait le corps d'un homme. C'était un homme parce qu'il était planté, les jambes écartées, et entre ses jambes, on voyait la nuit et une étoile. Je me suis souvenu aussi que j'avais écouté Rick Bass dans une table ronde littéraire qui parlait de son livre « Toute la terre qui nous possède ». Et donc j'avais acheté ce livre qui est donc dans ma bibliothèque. Et là, on passe vraiment dans de tout autre paysage puisqu'on est sur une terre texane, une région qui s'appelle l'Odessa. Et un peu de Mexique. Et on est dans les années 1930. Et là, on voit, alors là, c'est la terre comme territoire, la terre aussi, la terre du profit, la terre de la bagarre marchande. Et puis, la chaleur, la sécheresse, le sel, le jaune. Les habitants du nouveau désert, les Indiens Jumanos, se battirent contre les Apaches pour le contrôle du lac, comme s'il n'y avait pas suffisamment pour partager, et comme s'il était impossible d'envisager ou de comprendre que le sel ne cessait de se renflouer, que le soleil même était ce qui permettait au sel de remonter à la surface. À la fin du XVIIe siècle, quand le capitaine Juan Dominguez de Mendoza, lié au vice-roi espagnol qui plus d'un siècle plus tôt avait contribué au financement des Cortés dans sa quête d'or, d'argent et des sept cités de Cibola, arriva au bord du lac. Il découvrit que de nombreuses pistes et routes étaient apparues, qui menaient toutes en cet endroit. Il les appela des caminos, ou rues, et remarqua de quelle manière elles étaient bordées de pierres blanches, afin que n'importe quel voyageur puisse suivre, même par une nuit sans lune, ces sentiers consacrés par le temps conduisant à la même destination finale. Ne trouvant ni or ni argent, après presque 200 ans de massacres et de troubles, les Espagnols se tournèrent enfin, comme toutes les cultures avant eux, vers le sol, et se mirent à ronger le sel scintillant. Tandis que l'Espagne encourageait la colonisation vers le nord du Mexique, à travers une série de garnisons et de missions, la marche ancestrale des soldats et des prêtres, occupant de plus en plus de terres à faible rendement agricole, la plupart des affrontements n'opposaient pas les Indiens et les marchands de sel, mais les marchands entre eux, quand un conducteur de charrette tiré par des bœufs en insultait un autre. Les os humains ne jonchaient pas seulement les rives du lac, mais le sentier menant au Mexique. Les os blanchissants des marchands de sel séchant pleins d'asticots dans le désert près des pierres et boules d'air des caminos. Comme si chaque squelette avait appartenu à un individu dont l'ultime et primordial but dans l'existence avait été, dans la mort, de contribuer à paver et à indiquer la route du lac, afin que ses congénères puissent poursuivre des voyages similaires. La notion de terre aussi, c'est marrant parce que ça évoque en nous ce sur quoi on est, et puis ça évoque aussi le dessous, les sous-sols, le souterrain, l'underground. Et là, tout de suite, aussi parce que j'en avais un peu marre de cette terre qui paraissait fort masculine avec les extraits précédents, j'ai tout de suite eu la figure d'Alice au Pays des Merveilles qui m'est venue. Cette petite fille qui se met à suivre, comme ça, comme par magie, la magie du récit, un lapin dans son terrier qui rentre dans les entrailles de la terre. Mais surtout pour évoquer cette idée de underground qui est mise en avant. Le passage que je vais lire, c'est le moment où elle se réveille et où elle dit, ah, elle dit à sa sœur, oh, j'ai fait un rêve très étrange, et elle finit par se dire elle-même que c'était un rêve non seulement étrange, mais un rêve merveilleux d'être sous cette terre.
Wake up, Alice dear, said her sister. What a nice long sleep you've had. Oh, I've had such a curious dream, said Alice. And she told her sister all her adventures underground, as you have read them. And when she had finished, her sister kissed her and said, It was a curious dream, dear, certainly. But now run into your tea, it's getting late. So Alice ran off, thinking why she ran as well she might. What a wonderful dream it had been.
Et dans ma bibliothèque, autour de la terre aussi, j'ai des bandes dessinées, dont une qui s'appelle « Il est où le patron ?» Chronique de paysanne. C'est une bande dessinée de Maud Bénézit et les paysannes en polaire. Alors, c'est pas facile de rendre compte d'une BD à la radio, mais je vais quand même essayer. C'est donc l'histoire de trois paysannes dans des contextes différents. Une apicultrice, une femme qui s'occupe de chèvres et une autre de brebis. Et comme elles s'installent, elles sont jeunes agricultrices, deux d'entre elles vont à la chambre d'agriculture faire des formations. Il y a une première planche où on les voit comme ça qui ont fini leur réunion qui n'a pas servi à grand chose. Et donc elles se plaignent un peu. Et il y a un jeune homme qui était dans la formation avec eux qui leur montre un panneau en disant « Au lieu de tout critiquer, Joséphine, regarde, ils font des choses pour vous les femmes. » Et donc là, elle regarde l'affiche où on peut lire « Trophée de l'agriculture au féminin. Défilé de mode samedi 17 mai. La femme est complémentaire de l'homme sur la ferme. Mettons-la en valeur. » Et là, évidemment, elles se gossent, les deux jeunes agricultrices. Et l'une dit « Montrer qu'on peut être agricultrice tout en étant belle et féminine. » L'autre répond « Mon rêve. » T'imagines la réunion pour pondre une idée pareille ? Et donc, sur la seconde planche, on a l'imagination de la réunion avec trois hommes, plutôt avec des têtes de boomers, assis. Le premier dit « Bon, tout le monde parle de femmes et d'agriculture, il faut qu'on fasse quelque chose sur ce sujet. » On peut faire comme les concours de labour, un concours féminin, un défilé par exemple. Super ! Elles adorent qu'on les mette en valeur. On confie l'orga à Sylvie et on enchaîne sur l'ordre du jour. Parfait. Voilà, donc vous avez compris l'esprit de la bande dessinée, parce que c'est une bande dessinée féministe, qui donc parle de la difficulté pour les femmes à être reconnues dans ces métiers.
Ah, dis-moi donc, bergère, à qui sont ces moutons ? Monsieur, à la bergère, qui se les achetions ? Et mon pied au derrière, devinez qui l'auront ? Ah, dis-moi donc, bergère, comment me parle-t-on ? Monsieur, pour vous y faire, on a changé de ton. Et mon pied au derrière n'est pas pour mes moutons. Ah, dis-moi donc, bergère, mais que s'est-il passé ? Ce n'est pas du tout ce que mon père et mon grand-père m'ont raconté. Ils m'ont dit que les filles n'attendaient plus que moi, qu'avant de fonder une famille, je devais m'amuser comme un roi. Ah, dis-moi donc, bergère, tu as de bien beaux yeux. Vous parlez de mon derrière, je le sais bien, monsieur. Mais c'est pas votre affaire, le touche qui je veux. Bergère, allons, bergère, tu n'y es pas du tout. Moi, je voulais te faire un brin de cour, c'est tout. Ben voilà des manières, votre cour, je m'en fous. Dis-moi, dis-moi, bergère, pour qui te prends-tu donc ? soit dit sans vouloir te déplaire, tu as le nez beaucoup trop long, tu as la taille fine, la jambe beaucoup moins, tu n'as pas assez de poitrine et tu aurais besoin d'un shampoing. Ah non, vraiment, bergère, à bien te regarder, vraiment, tu exagères de t'en me résister. Tu devrais être fière que je t'ai remarqué. Monsieur dit la bergère, ne faites pas rigoler ce que votre grand-père vous a pas expliqué. C'est que je les préfère un peu mieux baraquer. Et la pointe la bergère, le soleil dans les yeux. N'en déplaise à monsieur votre père, vous n'êtes pas terrible mon vieux. Suffit pas que le coq chante pour qu'on vienne en gloussant. Pour en trouver de plus causantes, faudra changer votre compliment. Tu te trompes bergère, j'ai une fiancée qui a d'autres manières et qui sera comblée parce que je vais lui faire le 10 du mois de mai. Je sais, dit la bergère, elle est pas mal du tout. Et puis elle est pas fière, elle s'amuse sans vous. Avec mon petit frère dans le pré en dessous.
Quelle modernité cette Anne Sylvestre quand même. Elle en parle elle aussi des femmes de la terre mal considérées.
Hybridation. Les soulèvements relèvent de la coalition, du mouvement tout autant que de l'organisation partisane. Sans jamais y correspondre tout à fait, ils piochent dans leurs forces respectives pour tenter de dépasser les limites de chacune de ces formes. La multiplicité de la coalition et le risque d'une simple juxtaposition, la fluidité du mouvement et son adéquation aux situations, mais aussi son caractère éphémère et lâche, la fiabilité, la durée et les moyens d'une organisation et l'écueil de ses scléroses. Nous sommes une coalition parce que nous réunissons un ensemble d'organisations et de collectifs préexistants qui maintiennent leur autonomie et leur existence propre. Nous sommes un mouvement parce qu'orienté vers l'action et ouvert à des formes de ralliement massif et d'agrégation informelle. Nous sommes une organisation parce que décidée à nous doter de structures propres, durables et d'espaces de décision réactifs.
Voilà. Nous sommes sur l'émission Rature, nous sommes sur la clé des ondes et c'est le moment, eh bien, de ce moment que l'on aime bien, qui est d'aller chercher des gens qui nous racontent un petit peu ce qu'ils font. Allez, c'est parti. Alors Violette, comment tu fais ce que tu fais ?
Alors, mon travail, c'est de bosser avec des agriculteurs. Donc, en Gironde, on a beaucoup de viticulteurs et de les aider à préserver la qualité de leur sol. Donc, pour ça, on fait plusieurs mesures au terrain. On va les voir, on va sur les parcelles. Et on fait plusieurs mesures sur le sol et sur la vigne. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est creuser dans le sol. Ça va être tirer des carottes de sol et aussi ouvrir le sol avec la bêche. Pour pouvoir les observer, voir comment ils se comportent, sur quel type de sol on se situe, et puis voir comment améliorer leur qualité.
On peut identifier de suite une terre.
Et ben, y a plusieurs paramètres qu'on va pouvoir regarder. Il y en a effectivement qu'on va pouvoir observer de suite, par exemple avec le test de bêche. Ce qu'on va regarder, c'est la texture, si on est plutôt sur des argiles, sur des sables, donc la taille des particules finalement, est-ce que c'est plutôt grossier ou plutôt fin. Il y a aussi des indicateurs un peu simples qu'on peut voir, qui sont l'enracinement, est-ce que les racines plongent profond ou pas, les vers de terre aussi, donc ça c'est plutôt la macrofaune, donc celle qui est visible directement. Et puis, il y a d'autres paramètres un peu plus fins qu'on ne peut pas déceler de suite. Et pour ça, il faut du coup envoyer les échantillons en analyse pour faire des analyses de sol. Et là, bah, par exemple, on va pouvoir regarder le pH, la quantité de micro-organismes. Donc tout ça, en fait, ça nous renseigne sur la fertilité des sols. C'est-à-dire qu'on va vouloir savoir si le sol, il est plutôt fertile, s'il est plutôt propice à reléguer des éléments nutritifs qui ensuite vont profiter aux cultures. Donc en fait, c'est voir si le sol est bien nourri pour que la culture derrière soit bien nourrie.
Alors comment on nourrit bien un sol, une terre ?
Eh ben, pour avoir un sol qui soit bien vivant, l'idéal c'est qu'il soit couvert, mais couvert avec des plantes en fait, donc qu'il y ait des plantes qui poussent dessus. Ce qu'on peut faire, c'est laisser pousser l'herbe naturellement. En vigne et dans les autres cultures aussi, ce qu'il s'agit de faire, c'est de bien gérer la concurrence que procure l'herbe par rapport à la vigne. Donc quand l'herbe est trop concurrentielle, on a une autre possibilité, ça va être de semer des plantes, donc de venir les semer entre les rangs des vignes, pour choisir par exemple des légumineuses, des graminées, donc des espèces en fait qui vont être sélectionnées et qui vont aider la vigne à mieux se comporter, à avoir une meilleure fertilité.
On parle de fertile, mais toi, est-ce qu'il t'arrive de trouver des terres stériles ?
Eh ben, ça peut être des vignes sur des sols très très sableux, sur des sols très très peu couverts en fait, qui sont travaillés tout le temps. Il y a des contextes un peu extrêmes aussi. On peut penser à des sols désertiques, très salés, très au contraire très très humides. En fait, selon les caractéristiques des sols, il n'y a pas de sol parfait, mais il faut composer avec le type de sol sur lequel on se situe. Et sachant que, bah, par exemple, un sol qui est sableux, il est sableux de base, on ne va pas pouvoir changer sa texture. Par contre, on peut venir rapporter par exemple de la matière organique, donc c'est ce que font les agriculteurs quand ils mettent du compost ou du fumier, ou venir, comme je disais tout à l'heure, couvrir les sols avec des plantes.
Alors, quand on prend une carotte, ça nous dit quoi de notre monde ?
Une carotte de sol, en fait, c'est qu'on vient avec un outil qui s'appelle une tarière, on va en tirer des carottes de sol, donc sur une quinzaine de centimètres, et on va pouvoir enfoncer la tarière jusqu'à environ un mètre de profondeur. Ça nous donne bah, du coup la possibilité de les envoyer en analyse. Et qu'est-ce que ça nous dit de notre monde ? Là, ça va en fait nous donner une indication sur le type de sol sur lequel on se situe. Un agriculteur qui se penche sur cette question-là, ça veut dire qu'il est attentif, qu'il observe ses parcelles et que c'est important du coup pour bien adapter ses pratiques, qu'il sache en fait sur quel type de sol il se situe, pour planter une vigne qui soit adaptée à son sol.
Alors raconte-nous, toi, quand tu prends une voiture, tu vas sur un terrain, et quelle relation tu as avec les agriculteurs ? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi ?
Bah, ce qu'ils attendent, c'est de discuter, c'est aussi qu'on les mette en contact les uns avec les autres. Et ça arrive que j'aille les voir tout seul, ça arrive aussi qu'on les réunisse, en fait, qu'ils viennent voir les parcelles les uns des autres. Et finalement, le plus important, c'est peut-être qu'ils voient comment fait le voisin. Parce que nous, à la Chambre d'agriculture, on a du coup ce rôle d'accompagner, de fournir à la fois un conseil et un accompagnement. Mais le moyen le plus efficace, je trouve, c'est qu'ils discutent entre eux et qu'un autre professionnel voit ce que fait un professionnel voisin pour bah, simplement adapter un peu ce qu'il aura vu chez l'autre à son propre contexte. Parce que tout le monde fait assez différemment en fonction du contexte sur lequel il se situe, selon son exploitation, son matériel. Donc finalement, de nourrir ces échanges-là, c'est hyper enrichissant pour tout le monde. D'en discuter en réunion, mais aussi simplement d'aller voir la vigne du voisin pour pouvoir faire différemment chez soi.
Est-ce que tu arrives à interpréter la relation que ces agriculteurs ils ont avec leur terre, le lien qu'ils ont avec leur terre à eux ?
En vigne, c'est particulier parce que le terroir, c'est une notion importante. Ça définit en fait le type de vin qu'on va avoir. Et bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui se questionnent, qui trouvent cette question intéressante, même si ça a été peut-être un petit peu mis de côté depuis les années 50-60, où on a eu des pratiques un peu plus intensives et où on a un peu mis ces questions de côté. Là, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport au changement climatique. et du coup des viticulteurs qui essayent de planter des arbres, de mettre des couverts, de ramener de la matière organique qui avait un peu été mise de côté pendant un certain temps. Et leur sol, bah, c'est leur capital en fait, c'est ce qui permet de piloter le goût qu'aura le vin derrière. Donc ouais, il y en a beaucoup qui s'intéressent à cette question-là.
Il y a des gens qui disent « on ne protège pas la nature, on est la nature ». Est-ce que ça te parle, cette phrase ?
En agriculture, les agriculteurs, en fait, ils font avec ce que leur propose leur nature et ils sont aussi garants de la protection de la nature. C'est une relation dans les deux sens, enfin, moi je le vois comme ça. Dans le sens où on parle beaucoup de biodiversité, de perte de biodiversité qui s'observe à l'échelle globale. On a moins d'abeilles, des choses comme ça. Et à la fois, en fait, par leurs pratiques qui ont été intensives pendant un temps, ben, on peut considérer que les agriculteurs, ils sont responsables de ça, mais ils sont, en fait, le mot responsable, ça implique qu'ils ont aussi le pouvoir de protéger cette biodiversité par leur pratique. En fait, le fait qu'on ait, par exemple, de l'élevage et des pâtures, ça permet de garder certaines espèces de flore. Le fait d'avoir, justement, de venir planter des arbres dans les parcelles, on garantit en fait des paysages qui sont assez variés, et tout ça, c'est sans agriculteurs, on perdrait toute cette biodiversité-là.
Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la terre ?
D'y voir pousser des plantes, parce que moi j'aime bien pouvoir pousser les fleurs. De creuser en fait et de voir qu'il y a énormément de diversité dans les couleurs, dans les types de sols, les textures, de faire des tests bêches où on va venir compter les vers de terre, c'est un truc qui est sympa à faire aussi. Et puis voir que selon ce qui pousse, qu'on soit en forêt, qu'on soit sur une dune, qu'on soit sur un champ cultivé en pleine prairie, il y a énormément de diversité et on ne voit jamais la même chose. Donc c'est un peu ce que je trouve intéressant de travailler dans l'agriculture, c'est cette diversité.
Merci Violette. Au revoir.
Au revoir et merci.
Contourne les obstacles parfois. Des rejetons me poussent bien bas. Je ne les retiens pas, je ne les retiens pas. Ah, ah, ah. Le tarmac au-dessus de moi se fendit, craque comme le bois. Je fouille le sol de haut en bas. Délie mes tiges, déploie mes doigts. Sur le dos, reste d'écailles et vermisseau, sans queue ni tête, suive le flot. J'entends comme des grésillements, les graines éclatent, tremblent et s'agitent. Les vers enroulent leur corps limite, les zones humides font des ruisseaux. Au-dessus de moi.
Chanson de Françoise Breut, toute récente, qui est sortie en mars dernier. Quand on est talentueuse, hein, c'est pour toute la vie. Et là, elle évoque l'organique souterrain qui grouille et perce l'asphalte, ou quand la terre reprend ses droits. Ben voilà, c'est la fin, Rémi, c'est la fin de ce rature.
C'est la fin, mais c'est pas la fin des ratures, puisqu'on se retrouve très vite avec un entretien de Nicolas Rouillet. Pendant une heure, un dimanche soir.
Bientôt, tout bientôt.
21h, 22h.
Et puis, alors là, on est le dimanche 26 mai. Demain, le lundi 27 mai, à la Villa Valmont, il y a une sortie de résidence d'auteurs, de jeunes auteurs qui ont été accompagnés par Chloé Delhomme, si ça vous intéresse. Et puis, par ailleurs, surtout, tout bientôt, il y a Chahut qui commence. Et nous, on va évidemment faire des petites choses autour pour La Clé des Ondes. Et donc, Chahut, c'est du 7 au 15 juin. C'est dans le quartier Saint-Michel, principalement. Vous pouvez trouver des programmes un peu partout. La thématique, c'est
la marge,
le hors norme. Et justement, c'est une thématique que peut-être on va utiliser pour notre dernière thématique de l'année, peut-être.
Voilà, c'est ça. On va prendre des vacances juillet-août, mais on vous ramènera pour la rentrée des sons, des entretiens. En tout cas, on va continuer cette aventure.
Et pendant Chahut, si vous voulez venir assister et puis venir nous voir, on va animer un plateau justement qui s'appelle Radio Hors Normes. C'est le 8 juin à 14h dans la Halle des Douves.
Mais venez nous voir, si vous nous écoutez, venez nous voir.
Voilà.
Et
vive la Terre, quoi.
Et vive la Terre, allez. Au revoir, Aurore.
Au revoir, Rémi.
Paradoxe de la déprise de terre. Par-delà nos usages productifs se profile le domaine éminent de l'inappropriable. Dans un monde où le moindre arpent de terre est soumis à l'exploitation humaine, il nous appartenait d'imaginer comment reprendre des terres pour les déprendre, comment consacrer des lieux qui existent pour eux-mêmes, des lieux qui font exception au règne sans partage de la logique extractiviste, de l'exploitation et de la rationalité instrumentale. Ces lieux peuvent être choisis aussi bien pour leur luxuriance, leur position, leur histoire, leur importance dans le cycle de l'eau, l'attachement aux êtres animaux et végétaux qui habitent, la présence d'un arbre, d'une fleur, d'un oiseau, d'une source, d'un rocher. Nous avons besoin de ces lieux pour faire cesser le ravage, pour protéger et défendre une biodiversité à l'agonie. Mais comment s'emparer de terre pour y réduire nos usages au strict minimum ? Le rapport de force par l'occupation se fonde sur l'usage. Dans une forêt ou dans un champ, c'est la présence liée à l'activité agricole ou sylvicole qui permet d'imposer un usage paysan en lieu et place d'une exploitation industrielle. Dans la forêt rouennaise, au sommet du glacier de Giroze, avec l'appui précieux du collectif des naturalistes en lutte, nous sommes parvenus à mener des actions, à trouver des gestes, à déployer des formes d'occupation éphémères, mais efficaces pour défendre des terres non agricoles sans y projeter aucune activité productive.